Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques, Denis Knopfler.
Mesdames et messieurs, la découverte en 1971, puis surtout la publication en 1978 par Leslie Shear, alors directeur des fouilles américaines de l'Agora, de ce grand décret pour Callias de Sphetos, a marqué un véritable tournant dans l'histoire comme dans l'historiographie d'Athènes hellénistique. C'est cette trouvaille exceptionnelle, en effet, qui a été au point de départ des recherches de Christian Habicht, aboutissant une vingtaine d'années plus tard à sa synthèse sur 3 siècles d'histoire athénienne. Mais dès sa mise en circulation, si l'on peut dire, le document a suscité plusieurs contributions d'ensemble et de détails qui sont venues s'ajouter aux commentaires déjà très étoffés du premier éditeur. La plus importante de ces contributions est due sans conteste à Habicht lui-même dans ses Untersuchungen, souvent cités, de 1979. Mais 2 autres travaux parus la même année méritent assurément d'être cités. C'est d'abord l'étude de l'épigraphiste anglo-australien Michael Osborne, qui travaillait alors sur les décrets attiques octroyant la citoyenneté, la politeia, à des bienfaiteurs étrangers, ce que n'est pas Callias. Document dont il a publié peu après le corpus commenté, qui est bien connu sous le titre, un peu équivoque, d'autres l'ont dit avant moi, de Naturalization in Athens. Les observations critiques faites par Osborne dans la Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphie de 1979 également, vous voyez que ça va très vite, ont porté essentiellement sur la chronologie des événements relatés dans la première partie du décret de Callias. De son côté, l'historien français Philippe Gautier publiait en cette même année, dans la revue des études grecques 1979, donc, un gros article intitulé « La réunification d'Athènes en 281 », où il traitait, certes, essentiellement du problème de la récupération du Pirée après le soulèvement d'Athènes, question à laquelle le décret de Callias, comme on l'appellera désormais pour faire bref, n'apporte certes qu'un éclairage indirect. Au surplus, Gautier n'avait pu prendre connaissance du nouveau document athénien qu'après la première rédaction de son mémoire, mais il pouvait néanmoins la léguer in extremis en notant que les informations apportées par ce décret sur la situation général d'Athènes au lendemain de la libération confirmait ses vues sur la question très controversée du Pirée que nous aborderons la semaine prochaine. Un peu plus tard, dans son maître livre sur les cités grecques et leurs bienfaiteurs, paru en 1984, Gautier a tiré le meilleur parti de cette belle inscription pour préciser la procédure d'octroi des plus grands honneurs, les mégistai timai, par la cité d'Athènes aux citoyens dont la carrière politique se distinguait par la constance et l'importance des services rendus à la collectivité. Il montrait en particulier quel rôle jouait l'aïthésis, la demande formulée par l'intéressé lui-même ou à défaut par l'un de ses héritiers, comme ce fut le cas pour Démosthène, longtemps après sa mort, ou pour son neveu Démocharès de l'Oïkonoé, au lendemain du décès de ce patriote, demeuré en exil pendant longtemps. Dans le décret pour Callias, il n'y a pas de mention directe de cette aïthésis déposée par ce dernier, encore bien vivant, au moment où il fut honoré. Mais Gautier a su voir qu'une clause, là aux lignes 86 et suivantes, qui n'avait pas été parfaitement comprise par l'éditeur, contenait en fait une allusion à cette procédure. En effet, il est fait mention, à la ligne 88 exactement, de l'assemblée légale, Eisten Ecclesian ten ectu nomu, formule un peu inhabituelle dans les décrets, c'est en raison du fait qu'un délai minimal était imposé par la loi pour l'examen d'une demande, précisément, en vue de l'octroi des plus grands honneurs. En outre, à partir d'une certaine date au moins, les décisions étaient prises ou étaient soumises à une ultime validation, une dokimasia, notion qui a fait depuis, je le signale ici, l'objet d'un livre publié en 2008 sous le titre justement de Dokimmasia par le jeune historien Christophe Feyel. Or, le décret de Callias fait précisément mention, in fine, de cette procédure légale, donc la Dokimmasia, introduite par les thesmothètes, tous thesmothetas, avec le verbe eisagagein, ten dokemasian, ensuite tes doreas, doreas étant évidemment la récompense elle-même. Et la chose est portée devant le tribunal de l'Eliaia, Eliaia. C'est dire que le nouveau document entre très clairement dans une catégorie bien définie, avec ses règles propres. Les honneurs accordés, qui sont les plus considérables qu'Athènes consente à octroyer à ses citoyens bienfaiteurs, sont d'ailleurs, à quelques variantes près, communs à tous ces décrets. C'est la proédrie, privilège d'occuper une place en vue lors des fêtes, des concours, la cytésis, nourriture aux prytanées, à vie, l'honneur considérable aussi d'une statue sur l'agora. C'est d'ailleurs sur l'agora donc a été trouvé le décret, sinon la base de la statue pour Callias, statue dont on a parfois les vestiges ou les copies, comme pour celle d'Olympiodoros, qui, à vrai dire, elle, devait être dressée sur l'Acropole même, à titre exceptionnel, ou alors au théâtre, si l'honorandus, comme on dit, avait un lien avec les concours scéniques ou musicaux, avec les Dionysies, comme ce fut le cas, on s'en souvient, de Philippides de Céphalée. Ce qui diffère, en revanche, plus ou moins profondément d'un décret à l'autre, ce sont les considérants, évidemment. Ceux-ci sont certes toujours développés, intéressants, avec des mentions de magistrature exercée, de belles et généreuses actions accomplies au service de la cité, des allusions aussi très souvent à des missions conduites à l'étranger. Si les considérants du décret de Callias offrent un intérêt exceptionnel, encore une fois, c'est d'abord et surtout par le récit détaillé qui est fait d'un événement capital, mais jusque-là assez mal connu, de l'histoire athénienne, à savoir le soulèvement de la cité contre le roi Démétrios. Quand on compare ce décret aux autres du même type, une chose ne peut manquer de frapper dès la première lecture, c'est que l'on entre d'emblée dans le vif du sujet. Car on se serait attendu à ce que les premières lignes fassent état des débuts de Callias dans la carrière politique, puisqu'au moment des événements relatés, où il s'illustra, le personnage devait avoir déjà une quarantaine d'années, ayant dû vraisemblablement attendre l'âge de 60 ans, l'âge légal, pour être honoré plus tard comme il le convenait. Or, il n'y a rien de tel dans ce décret. Une fois le préambule terminé, qui est certes intéressant et qui nous fournit, on y reviendra, à la fois la date de promulgation du décret, sous Sosistratos, et le nom aussi du rogator, du promoteur, Eucharès, des choses importantes, on passe immédiatement à l'évocation des hauts faits, Epeidae Callias, vous voyez, Callias, d'emblée, le nom apparaît et le récit. Le contraste est d'autant plus vif pour l'observateur attentif que l'on possède, et depuis fort longtemps, le décret voté pour le propre frère de Callias, Phaedros, fils de Timocharès, lui aussi donc du dème de Sphetos, document que vous avez également sous les yeux ou dans votre dossier. Or, si les honneurs octroyés aux deux frères sont à peu près identiques, avec une différence cependant qui ne saurait être fortuite, on va le voir, les considérants diffèrent passablement d'un document à l'autre, quand bien même ils se rapportent, en partie au moins, aux mêmes événements. Pour Phaedros, en effet, il y a non seulement mention dans toute la première partie, et qui encore est amputée, nous n'avons pas le début du décret pour Phaedros, de tous les hauts faits accompli par le père, Timocharès, et même par le grand-père, Phaedros, qu'on peut appeler l'Ancien, et on se serait donc de prime abord, on a été tenté de penser que les Athéniens n'ont pas voulu répéter pour Callias ce qu'ils avaient déjà dit en long et en large pour Phaedros. Mais cette explication doit être aussitôt écartée, puisque le nouveau décret est en réalité antérieur et de plusieurs années à l'ancien. C'est en effet, on l'a vu, de l'Archonta de Sosistratos, qui est là placé sur le nouveau tableau de Osborne, pour l'année 260-269, que les Athéniens furent en mesure d'honorer Callias. Tandis que pour son frère, qui était sans doute l'aîné pourtant, ils attendirent plus longtemps. La date précise du décret pour Callias est certes inconnue, car vous l'avez vu, le haut de la pierre est perdu, mais la mention, vers la fin des considérants de l'archonte Euboulos, pas en charge avant 260 à peu près, oblige à placer ce décret de la vie générale vers 258 seulement, quand, et ça c'est important, quand Athènes était retombée déjà au pouvoir de la Macédoine. C'est donc autrement qu'il faut rendre compte du contraste frappant dans la manière de présenter la biographie politique de ces deux grands Athéniens. Tout montre en fait, et cela n'a évidemment pas échappé au premier commentateur, que Callias n'eut aucune activité politique à Athènes avant son intervention dans le soulèvement, pour la bonne et simple raison qu'il fut, alors il resta longtemps en tout cas, oui, beaucoup d'années, peut-être jusqu'à sa mort, au service des Ptolémées d'Égypte, en tant qu'officier d'assez haut rang, comme il y en a d'autres exemples, pour des ressortissants de diverses cités grecques, dès le début de l'époque hellénistique. Ce qui est remarquable, en l'occurrence, c'est que, loin de lui en tenir rigueur, même à mot couvert, dans la laudatio qui est faite de lui, on l'en félicite d'une certaine façon tout à la fin des considérants. En effet, dans les lignes 81 et suivantes, dans un passage un peu problématique, qui est d'ailleurs le seul à n'avoir pas pu être restitué parfaitement, vous le voyez, il est fait état de sa résistance passive, la résistance de Callias, pendant la période de l'oligarchie, ente oligarchiae. Dans sa méritoire traduction française, notre collègue et ami Jean-Marie Bertrand a tenté de rendre de la manière suivante cette phrase complexe, avec l'indication d'une lacune avant les mots « dans sa patrie », vous voyez, « ente ou te patridi ». Callias, écrit-il, n'est pas resté dans la ville quand la démocratie fut abolie. Il préféra, sous l'oligarchie, que sa fortune fût prise et donnée pour n'avoir rien à faire rien, qui fût contraire aux lois et à la démocratie dont chacun est garant, dont chaque Athénien est garant. Cette dernière expression ne paraît pas des plus heureuses. Elle est inutilement compliquée, car « e demokratia est ex apanton athénaion », c'est tout simplement le régime auquel tous les Athéniens peuvent participer activement, à la différence d'une démocratie censitaire, comme Athènes en avait connu sous Démétrios de Phalère, par exemple. En l'occurrence, cette période oligarchique, oligarchia, doit désigner, comme l'a bien vu le premier éditeur, les années immédiatement antérieures au soulèvement, cette période de 7 ou 8 ans où le roi Démétrios mit les institutions, on l'a vu, les institutions démocratiques en veilleuse, s'arrogeant en particulier le droit de s'immiscer dans la désignation des magistrats. Mais cela ne nous dit pas encore clairement ce que Callias fit alors, ou plutôt ne fit point, pour mériter l'éloge, même en cette circonstance. Certes, on peut admettre assez aisément que dans la lacune non comblée jusqu'ici, il y avait un verbe, une forme personnelle, dont la présence est indispensable. Il manque ce verbe personnel dans ce dernier volet des considérants. Attendu aussi, Caille, bon, probablement au début, Caille, attendu aussi que Callias ne séjourna pas dans sa patrie, Caille huc epidemesen ente patridi, Callias, je propose cela exempli gratia, en tenant compte de l'espace disponible, parce que le texte n'est pas gravé stoikédon. Puis il s'agit de traduire au plus près le participe upomeinas, précédé par la très forte négation, ou des popotés, à aucun moment, Callias n'ayant donc jamais, au grand jamais, supporté, car tel est bien le sens de upomeno, upomenein, mais supporté quoi ? De remplir une magistrature, a-t-on pensé assez naturellement, après que la démocratie fut abolie. On a l'expression très, très connue, kata lelumenu tu demo. Le problème, c'est qu'aucun des verbes attendus en pareil cas après le participe upomeinas, notamment le verbe argain ou metekein tes arkes, ne paraît pouvoir être introduit à cet endroit. En désespoir de cause, Abicht a proposé, sous réserve, le verbe passif arkestai, qui a été critiqué par Gautier, à juste titre, d'une certaine façon, puisque c'est une forme passive qui ne saurait donc signifier exercer une magistrature. Pourtant, c'est, je crois, la seule forme admissible, compte tenu... Oh oui, il faut que je remonte. Compte tenu des traces des lettres... Et upomeinas, quelques lettres, trois lettres sans doute, et puis un epsilon. Seule forme possible, mais il ne faut pas craindre de lui donner sa valeur passive, normale, donc être commandé littéralement, car dans une loi de la cité d'Érétrie contre la tyrannie, que j'ai eu le privilège de publier en 2002, se trouve en effet une expression exactement parallèle pour stigmatiser ceux des citoyens qui auraient accepté, auraient supporté, dans le sens français et non pas franglais, auraient supporté d'obéir à la tyrannie. Ton upomeinanton archestai te tyrannidi. Et chemin faisant, j'ai essayé de montrer, mais sans trouver... encore beaucoup d'écho jusqu'ici, puisque mon exégèse avait le tort d'être enfouie dans une publication portant sur une épigraphie autre que celle d'Athènes, que tel devait être le sens dans ce passage du décret de Callias avec Archestai. Les Athéniens ont donc fait à leurs concitoyens l'éloge à première vue paradoxale de sa non-participation à toute forme de vie civique, en lui reconnaissant donc tout de même aussi à la caille un mérite plus tangible, à savoir le fait d'avoir décidé que sa fortune personnelle fut remise en don sous l'oligarchie. C'est la phrase, donc, ten usian, ici, proemenos, docin, dotenai, ente oligarchiae. Par ce don, ou plus exactement, par ce renoncement à toute prétention sur la fortune immobilière qu'il avait en Attique, Callias se mettait à l'abri du devoir de contribuer à la levée d'un impôt foncier, par exemple, de caractère exceptionnel, comme une eisphora, que le roi Démétrios a pu faire lever dans ces années-là pour la construction, notamment, de sa flotte gigantesque destinée à la guerre contre ses rivaux, dont, justement, ce roi Ptolémée, au service duquel Callias se trouvait certainement dès cette époque. Cela permettait également à Callias d'échapper à l'une de ces coûteuses magistratures de caractère liturgique qui frappaient les plus riches familles, même si la plupart de ces liturgies avaient alors disparu, T. tels que, en particulier, la gonothésie, la présidence des concours. Et de fait, Callias ne fut jamais à gonothète, alors qu'il était un candidat tout désigné, compte tenu de sa richesse, pour une telle fonction. Non seulement d'autres grands patriotes de ces années-là le furent, ainsi Philippides, justement, on l'a vu, mais Phaédros lui-même, qui, non content de l'exercer en personne vers la fin des années 280, contribua encore de ses drachmes aux dépenses de la charge quand, 20 ans plus tard, son propre fils, Timocharès, fut à son tour désigné comme agonothète. On voit par là combien était différente la situation des deux frères, l'un solidement implanté sur le sol de l'Attique, toujours actif dans la vie locale, l'autre délesté, mais à la suite d'un acte tout à fait délibéré, quelque peu contraint, de ses propriétés foncières dans sa patrie et séjournant de manière continue à l'étranger. C'est peut-être ce qui explique qu'à ce citoyen un peu lointain, un peu volatile, dirais-je, on n'ait pas cru devoir accorder la nourriture aux prytanées, malgré les immenses services qu'il avait rendus un peu plus tôt à sa patrie. Alors que la cytésis, ento prytaneio, cette espèce de consécration civique réclamée, on le sait, par Socrate, hein, à ses juges médusés, faisait pleinement partie des megistai timai, comme l'atteste, entre autres, le décret pour le frère, le décret pour Callias. Venons-en maintenant au récit des événements fournis par le décret de Callias. Car on peut bien parler de récit, hein, comparable à une page de Plutarque ou de Diodore. L'auteur en est d'ailleurs connu, d'une certaine façon, c'est évidemment le rogator, œil caresse de Contulé, un patriote, déjà honoré lui-même comme secrétaire des nomothètes dès 304, et vraisemblablement parti en exil dans l'intervalle, comme d'autres, Démocharès et Philippides notamment. C'est lui donc qui propose le décret. Mais il a dû suivre de très près le document déposé par Callias lui-même, l'aïtésis, et le rapport qui l'accompagnait pour justifier la requête. C'est donc en dernier ressort sur le témoignage de l'intéressé que se fonde le récit, mais un témoignage en quelque sorte officialisé, ayant fait l'objet d'une relecture critique, et il n'y a donc pas à en mettre en doute la véracité fondamentale, sauf preuve du contraire, même s'il faut prendre conscience que ce récit personnalisé ne prétend pas tout dire. Si détaillé soit-il, il fait nécessairement silence sur ce qui n'intéresse pas directement l'action de l'honorandus. Mais que de choses il nous apprend néanmoins. Le soulèvement populaire contre l'occupant macédonien est mentionné dès le début des considérants. Epeide Callias, genomenes tes epanastaseos, etc. Et l'événement est désigné par ce terme de épanastasis qui fait partie du vocabulaire politique le plus traditionnel et est demeuré vivace en grec moderne. C'est par ce terme que 20 ans encore après l'événement on le désigne. Mouvement d'insurrection contre ceux qui tenaient la cité, tous katekontas, ten Pauline. Et par ce terme de polis, il faut évidemment entendre, comme le plus souvent, l'ensemble de l'État athénien, ville et territoire. Cela ressort un peu plus clairement de ce qui suit, puisqu'il est immédiatement précisé que la première action fut d'expulser, et probablement sans coup férir au départ, ceux qui étaient dans la ville, les soldats qui étaient dans la ville même, tout ectou astéos, on les expulse. La situation des Athéniens n'en était pas moins délicate, puisque d'une part la place forte du Mouséion, le Frourion, était toujours eti catechomenou. Hein. Je rappelle, Frourion est ici, en limite de sur l'enceinte de la ville, en bordure sud-ouest. Et de ce muséion, ensuite, il ne sera plus question dans le décret de Calliens, bien que la prise du muséion ait fait partie des péripéties les plus importantes, mais elle fut réalisée par un autre que Callias. Callias n'y participa en aucune façon. C'était Olympiodore, justement, comme le dit, comme le rapporte Pausanias. Et aussi un décret connu depuis longtemps, IG de 666, sauf erreur, oui, ou syllogué, décret pour un officier de la garnison macédonienne qui avait été du côté de Démétrios, mais qui passe du côté ensuite des citoyens et qui transfuge d'une certaine façon, travaille à la liberté de la cité et, vous voyez, sun e poliorkei kai dekai to museion, le siège en règle de cette forteresse qui cède et les Macédoniens en sont donc délogés de façon définitive. Donc on voit par là qu'il il pourrait être dangereux de raisonner ex silentio à partir d'une inscription honorifique, forcément, encore une fois, très sélective, ne retenant strictement que ce qui se rapporte au personnage concerné. Je referme cette parenthèse pour nous en tenir aux informations positives du document. Le décret de Callias montre donc que le territoire est en butte aux raids armés menés par les hommes de la garnison du Pirée. C'est la phrase, donc Tescoras, avec la mention très intéressante du Pirée, justement, qui est le point de départ des troupes macédoniennes dans cette forteresse capitale. Et pour mieux faire ressortir le mérite de l'honorandus, on a donc voulu montrer combien la conjoncture était périlleuse pour Athènes, malgré les premiers succès, au lendemain même de l'épanastasis. C'est alors justement que se répand la nouvelle de deux arrivées, l'une très inquiétante, l'autre nettement plus encourageante. D'un côté, on apprend que Démétrios, le roi Démétrios Poliorcète, arrive du Péloponnèse et marche avec son armée contre la ville. Stratopédoun, metato stratopédou, eisto astu. Il faut relever le temps du participe. On a paragignomenou, hein, qui indique clairement qu'à ce moment-là, l'armée royale est encore en chemin. Pour les Athéniens, la surprise fut certainement très grande de constater que le roi de Macédoine s'était relevé si rapidement, lui dont on pouvait penser qu'il avait été définitivement mis hors d'état de nuire, en tout cas du point de vue des Athéniens, après la cuisante et double défaite qu'il avait subie dans son royaume même. De fait, Plutarque indique dans la vie de Démétrios que le spectacle de ce redressement inopiné, montrons la carte de l'Attique, les combats se déroulent donc aux abords d'Athènes, entre l'Imète, entre le Pentélique et le Parnèse, dans la plaine propre d'Athènes. Oui, on voit par le récit très, très rapide de le Plutarque qu'effectivement, les Athéniens étaient surpris, ne s'attendaient pas à voir Démétrios rétabli si rapidement. On peut dire que la surprise a été grande aussi pour les lecteurs du décret de Callias, de voir que le roi venait du Ec Péloponnèsou, du Péloponnèse, alors que tous les historiens admettaient de façon unanime jusqu'alors qu'il avait, il était parti de son royaume de Macédoine pour attaquer directement Athènes. Il fuit sa capitale avec des forces réduites. On constate donc désormais qu'il a dû se rendre par mer, par le canal de l'Eubée, vers Corinthe, avant même que le bruit de ses malheurs, je crois que j'ai une carte quelque part, donc il arrive à Corinthe, qui était un point stratégique pour lui, sur l'isthme, avec ses deux ports, et au cœur de son dispositif défensif. C'est là qu'il dut faire appel à tout ce qui lui restait de troupes dans le Péloponnèse. La connaissance que l'on a désormais de cette manœuvre totalement insoupçonnée pose d'ailleurs le problème de savoir quand il faut situer un événement dont Plutarque, dans le même passage, est seul à nous informer dans ce contexte, c'est à savoir la restitution aux Thébains de leur politéia, de leur constitution perdue depuis longtemps, demeurée dans une situation précaire depuis leurs deux soulèvements dans les années antérieures. Jusqu'ici, en effet, il était aisé de supposer que Démétrios, venant de Macédoine, était passé par Thèbes avant d'arriver à Athènes pour mettre le siège devant la cité. Aujourd'hui, un tel détour semble plus difficile à admettre, et on peut se demander s'il ne convient pas de penser que le roi traita avec les Thébains par le moyen d'une lettre afin de les détourner en leur faisant miroiter une situation meilleure, plus améliorée de leur statut, de faire alliance avec lui plutôt que de se ranger du côté de leurs voisins d'Athènes. Mais revenons au décret de Callias. En même temps, à peu près, que l'on apprenait la nouvelle de l'offensive royale, très menaçante, on dut être informé de la possibilité qu'un secours militaire, sans doute sollicité par l'envoi d'un messager en toute hâte, qu'un secours pût venir précisément de Callias. Installé alors comme en embuscade dans l'île d'Andros. Donc c'est la phrase ici, Putomenos, Callias, et il est avec ses soldats à Andros. Mais que diable allait-il faire dans cette galère, peut-on dire, pour Andros? Le décret ne laisse heureusement aucun doute sur le pourquoi de sa présence en cet endroit. Il y commandait un corps expéditionnaire relativement important qui avait débarqué là sur l'ordre du roi Ptolémée d'Égypte, le premier du nom, Ptolémée Sauter. Le décret de Callias nous a donc appris, on peut dire, du même coup, une chose nouvelle sur le plan de la grande histoire politique. C'est le retour en force de la puissance lagide en mer Égée après une première période de suprématie aux alentours de 310. On savait déjà, certes, qu'une flotte égyptienne avait croisé dans les eaux du golfe Saronique en 294, apportant aux Athéniens, assiégés par Démétrios déjà, un espoir de délivrance, mais bien vite détrompé. Mais la présence d'une force ptolémaïque dans l'île d'Andros, qui est donc bien ici, était un élément totalement inconnu avant la publication du décret de Callias. Alors, pourquoi Andros et depuis quand? Il n'est pas sûr qu'on ait affaire, dès le début du IIIe siècle, à une garnison permanente des Ptolémées. Compte tenu de l'effectif des troupes placées là, sous le commandement de Callias, en tout cas plus d'un millier d'hommes, puisqu'il fut amené, nous dit le décret, à en sélectionner 1000, epilexamenos ton stratioton kilius, On peut penser, me semble-t-il, que ce contingent s'était installé là peu auparavant avec un objectif précis qui était de soutenir le mouvement d'opposition contre Démétrios d'une manière générale, ou du moins de contrecarrer ces grands projets d'expédition, justement, d'expédition navale dans l'Égée, à partir de ces différents ports. L'île d'Andros, en effet, il faut bien voir cela, car on a guère insisté là-dessus jusqu'ici, est située à un endroit clé de l'itinéraire, on peut dire, maritime entre la Grèce centrale et l'Asie mineure, au débouché d'un passage obligé, qui est justement le canal d'Andros, entre la pointe méridionale de l'Eubée et l'île de ce nom, dans la mesure où tout vaisseau partant du Pirée, notamment, devait faire escale à l'extrémité sud de l'Eubée, dans le port de Gerestos, en attendant qu'un vent favorable lui permît de franchir ce détroit excessivement dangereux à cause des vents qui soufflent là souvent en tempête. Certes, si l'armée ptolémaïque avait pu s'installer dans l'île de Chéos, plus proche de l'Attique, cela aurait été plus favorable en vue d'un débarquement sur la côte orientale de l'Attique. Et c'est d'ailleurs ce qui se produisit quelques dizaines d'années après, lors de la guerre de Crémonides. La flotte égyptienne s'installe à Chéos, dans un port excellent, Choressos, rebaptisé justement Arsinoé, du nom de l'épouse et sœur de Ptolémée II, cette fois. Mais il faut penser que quelque chose fit obstacle à un tel projet, soit à Chéos même, soit plutôt justement parce que cette île trop proche était à la merci de la flotte macédonienne, encore fort importante, qui était stationnée tout autour, à Chalcis, de B, au Pirée, à Corinthe, et qui devait croiser de manière très fréquente au large de Chéos. On constate toutefois que Callias, aussitôt qu'il fut informé de la périlleuse situation de la cité, Putomenos Callias ton kindunon periten polin, prit le parti de passer sur le continent, dans la conviction que l'entreprise était conforme à la politique de son maître. Il est dit ça à Colussa Praton, Teitou, Basileos, Ptolémaïou. Il ne prend pas une telle initiative sans être sûr que ça correspond aux vœux d'Alexandrie, si l'on peut dire. Assez aisément, selon toute apparence, il franchit le canal d'Andros sans faire de mauvaises rencontres et débarque sans encombre dans quelques ports de la côte attique entre Ramnon, disons, et le Sounion pour se déplacer et ensuite gagner la ville même, Eisto Astu. Il faut dire que l'on était à la belle saison. Il faut dire qu'on était à la belle saison. Et cela est assez évident. Cela ressort de la première et fondamentale mission de Callias et de ses hommes, qui fut d'assurer la récolte et surtout la rentrée des céréales à l'intérieur de la ville. Il s'occupe tes tu situ sun sun comides, ligne 25, en prévision du siège, justement, que Démétrios, une fois arrivé sous les murs d'Athènes, on l'attendait, et allait fatalement installer pour de longs mois, peut-être. Il fallait donc qu'un maximum de réserves fût engrangé, oppose an eis ten polin os citos os pleistos, eis comiste, c'est tout à fait clair. Et de fait, dès son arrivée, cette fois on a le participe aloriste, epeide paragenomenos, Démétrios. Dès qu'il est arrivé, Démétrios s'emploie à disposer ses troupes tout autour de la ville pour l'investir. Il méritait donc plus que jamais son surnom fameux de Poliorcète. Ce qui n'empêcha pas, du reste, les plus déterminés des Athéniens de tenter des sorties, en relevant l'emploi du verbe, l'emploi du verbe technique, ici epexion, epexeinai, pour faire de telles sorties d'un rempart, ce que fait donc Callias lui-même et d'autres, et Callias est blessé à cette occasion, traumatias genomenos, pas trop gravement, selon toute apparence, car il se remet assez vite. Quand commence le siège, on est donc au tout début d'une, au tout début de l'été, disons vers le mois de juin, juillet, époque des premières moissons en Grèce. Juin, disons. Tout le monde a été d'emblée d'accord là-dessus. Mais de quelle année s'agissait-il ? Le décret de Callias ne le dit pas, et c'est pourquoi un grave désaccord a pu surgir sur ce point. L'affaire paraît certes définitivement réglée depuis assez longtemps au profit de l'année 287, date défendue simultanément par Osborne, par Abicht, par d'autres, notamment aussi par Boris Dreyer dans ses Untersuchungen de 1999. Il n'est pas sans intérêt toutefois de rappeler brièvement pourquoi le premier éditeur, l'American Shearer, avait acquis la conviction, après plusieurs années de recherche, que tout cela était à mettre une année plus tard, au point de proclamer, jusque dans le titre de sa remarquable publication, cette date de 286 avant Jésus-Christ. Deux raisons essentiellement ont joué en faveur de cette chronologie basse. La première est que l'année 286-5, le tableau est le tableau de Osborne, 286, Dioclès, et la première pour laquelle on ait des preuves absolues qu'Athènes était désormais libre et indépendante. C'est notamment sous cet archonte que le patriote Démocarès de Leuconoé, pour lequel on a un décret transmis par la littérature, par le pseudo-Plutarque, revint d'exil après une longue absence. Ne fallait-il pas admettre alors que l'insurrection avait eu lieu tout à la fin de l'archonta précédent, celui de Xénophone, 287-6, et donc seulement au tout début de l'été 286. Mais cet argument s'est avéré en réalité assez faible, puisque la vraisemblance suggère tout au contraire que le retour d'exil d'un homme comme Démocarès, qui n'était pas tout jeune, dut prendre du temps, lui qui avait peut-être d'autant moins de raisons de se presser de revenir, que le siège de la ville dut se prolonger pendant une partie de l'hiver, sans parler des difficultés considérables qui existaient encore à Athènes, même après la levée du siège. L'autre raison qui détermina Shearer à adopter la date de 286 était liée on peut dire, à l'idée même qu'il se faisait des rapports entre Callias et son frère Phaedros de Sphetos. Il était convaincu, en effet, que les deux frères, loin de collaborer, avaient pris un parti opposé face aux événements. Si Callias, de toute évidence, avait œuvré à la libération de la ville, avec l'appui des forces ptolémaïques, Phaedros, tout au contraire, serait resté fondamentalement fidèle à la cause de Démétrios. Opinion qui, il faut bien le voir, était partagée plus ou moins par d'autres érudits antérieurement, surtout dans le sillage de l'historien anglais Tarn, auteur d'un livre tout à fait important sur Antigone Gonatas en 1913, qui avait été tenté de faire le tableau d'une Athènes collaborant, sinon tout de suite, mais peu d'années après, de plus ou moins bonne grâce avec les Antigonides, devenant même, on le verra plus tard, à ses yeux, une espèce de capitale pour le roi Antigone. Or, aux yeux de l'éditeur du décret de Callias, cela signifiait qu'il fallait dissocier clairement l'action des deux frères, même là où elle pouvait paraître se rejoindre. Il découle en effet du décret de Callias pardon, il décrit du décret pour Phaedros que celui-ci s'employa également, mais alors en tant que magistrat, plus précisément comme stratège des hoplites, à faire rentrer la campagne le blé ou les autres fruits de la terre. Kaiton siton, ectes koras, kaitus alus carpus, aitios egeneto, eikomistenai. Alors que des temps difficiles, dit le décret toujours, menaçaient la cité. Or, dans ce document, dans le décret pour Phaedros, l'épisode est expressément daté de l'Archonta de Kimon, 288-7. Ce qui déterminait pour la récolte en question le début de l'été 287. Pour Chieur, c'était la preuve que les efforts de Phaedros pour stocker du blé en ville n'avaient pu coïncider avec ceux de Callias, puisque les deux frères poursuivaient, se faisant, des objectifs totalement opposés. L'action de Phaedros aurait eu en quelque sorte une valeur préventive pour le cas où ses concitoyens auraient été amenés à se soulever contre le pouvoir macédonien, un pouvoir qui était assez chancelant, effectivement, dès ce moment-là, tandis que l'action de Callias, elle, était clairement postérieure au soulèvement, à l'épanastasis, donc, toujours selon Chieur, d'une année plus tardive. D'où la date de 286 attribuée seulement à cet événement. Mais Abicht, Osborne et d'autres n'ont pas eu trop de mal à montrer que cette reconstitution se heurtait en fait à de grandes difficultés d'ensemble et de détails dans lesquels je n'entre pas, et que surtout elle reposait sur une pétition de principe extrêmement contestable, à savoir la prétendue opposition politique entre les deux fils de Timocharès. Certes, on l'a vu, Phaedros et Callias ont mené des carrières bien différentes, mais fondamentalement, ils furent l'un et l'autre des patriotes, assurément, travaillant au salut, soteria, le mot apparaît aussi dans le décret pour Phaedros, et à la liberté de leur cité. Ce qui a pu tromper l'éditeur américain, et il n'y a pas à lui en faire grief, car son erreur, d'une certaine façon, a été bénéfique, obligeant à serrer de plus près les textes afin d'en affiner l'interprétation. Donc, ce qui a pu le tromper, c'est que le rédacteur du décret pour Phaedros, ayant composé son éloge passablement plus tard, à une époque où, je l'ai dit, où Athènes était retombée au pouvoir des Macédoniens, a dû gommer tout ce qui pouvait indisposer le roi Antigone, successeur du Polyeucte VII. Au surplus, des parties entières de l'inscription ont été martelées, décret pour Phaedros, quand en 200, le peuple décida de faire disparaître toutes les mentions des Antigonides dans les inscriptions publiques. Du moins, ces mentions où les rois en question apparaissaient en tant que souverains, en tant que basileis d'Athènes. Ce qui n'était justement pas le cas dans le décret pour Callias, rédigé plus tôt et sans le moindre égard pour Démétrios. Vous avez noté que le roi Démétrios apparaît sans le titre basileus. Bon. Leur traitement a donc été là aussi différent. Il n'y a donc pas à distinguer deux opérations de sauvetage des céréales. La syncomidae tu situ, dont font mention les deux décrets, ce transport des récoltes, est un seul et même événement survenu au début de l'été 287. Au surplus, l'étroite collaboration entre les deux frères apparaît au grand jour dans ce qui constitue l'un des apports majeurs du décret de Callias, à savoir les informations relatives à une paix conclue entre Démétrios et Ptolémée pour régler la question du statut d'Athènes. On ne savait pas grand-chose des négociations avant, par les sources littéraires, Plutarque nous disait seulement que les Athéniens avaient envoyé une ambassade à la tête de laquelle se trouvait un de leurs philosophes, Cratès, un lointain successeur de Platon à l'Académie, lequel ambassadeur aurait réussi à convaincre le roi à lever le siège. Mais les choses furent en réalité un peu plus complexes à la lumière du nouveau décret, qui nous enseigne que le roi Ptolémée envoya Caïtou Basileos Ptolémaïou Apostélantos, aux lignes 33 et suivantes, un ambassadeur pour représenter et défendre les intérêts des Athéniens. Ta sumferonta to demo. Car les Athéniens ne participent pas directement aux négociations. Cet ambassadeur ptolémaïque s'appelait Sostratos, vous voyez, et on a pu reconnaître en lui, avec grande vraisemblance, sinon certitude absolue, le Sostratos de Cnide, qui, à Alexandrie, dans ces années-là précisément, fit dédier, sinon construire, le fameux phare Pharos, actuellement en reconstitution, d'une certaine façon, qui avait été construit vers 280, le phare de Ptolémée II. C'est dire que le roi d'Égypte n'avait pas délégué n'importe qui pour s'occuper d'Athènes. En outre, on a appris dans ce décret, chose intéressante, que les négociations eurent lieu au Pirée, dans ce port qui restait aux mains des Macédoniens. Sostratos n'eut donc qu'à débarquer de son vaisseau, mais il fit venir aussitôt une ambassade athénienne avec laquelle il mit au point les clauses de la paix. Or, c'est à cette occasion que Callias put à nouveau se rendre très utile, du fait que, d'un côté, comme membre d'une grande famille athénienne, il avait accès au collège des stratèges et au conseil, dont il suivit d'ailleurs strictement les instructions. On nous dit qu'il a obéi en cela, toi strategois, upakousas, et aussi au conseil, à la boulet. Et d'autre part, en tant qu'officier de Ptolémée, il pouvait parler d'égal à égal, quasiment, avec Sostratos lors des négociations. De fait, le décret précise qu'il tint à rester à Athènes avec ses troupes jusqu'à ce que la paix, fût conclue. C'est le passage suivant, aux lignes 40, vous voyez. Eos et Eirene suntelleste. Il reste dans la ville, il n'abandonne pas sa patrie avant l'achèvement des choses. Mais le rôle joué en cette occasion par Phaidros ne doit pas être sous-estimé non plus, même si la section du décret qui se rapportait à cet épisode a été en partie martelée dans l'Antiquité, comme je l'ai dit, parce que, précisément, cette partie du décret évoquait une relation diplomatique avec le basileus Démétrios, ce qui faisait problème en l'an 200, et rappelait le souvenir d'un ancien maître, donc Oni, de la cité. On constate que Phaidros, juste avant la mention de son action, après la mention de son action pour la rentrée des récoltes, donc des événements qui se suivent, reçoit l'éloge pour les conseils qu'il a donnés, sumbuloisas, todemo, suntelesai, et puis vous voyez ensuite que entre les doubles crochets signifie que tout cela a été effacé, rasé, comme on dit, et que la restitution essaye de rétablir le texte primitif. Il a donné un conseil pour que soit achevé, accompli quelque chose. Et à la lumière du décret pour Callias, on voit maintenant, de façon sûre, la restitution là est récente, que ce qu'il a contribué à accomplir, c'était justement ten eirenen, hein, c'est que négocier ou Pirée, l'envoyé de Ptolémée, avec Démétrios. Comme l'ont vu d'emblée, d'ailleurs, Abicht et Osborne, les conseils de Phaedros durent aller dans le sens d'une acceptation des conditions posées par Démétrios, qui voulait bien concéder l'indépendance de la ville, to Astu, son territoire immédiat, mais entendait rester maître du Pirée, d'Éleusis, des Frouria, de l'Attique. Et ça, c'était difficile à accepter pour les Athéniens, de rester partiellement sous le joug de Démétrios. En fait, les deux parties avaient un intérêt vital à parvenir à un arrangement que chacune d'elles estimait sans doute provisoire. Pour les Athéniens, il fallait absolument éviter d'avoir à subir la rigueur d'un siège prolongé. Le souvenir du précédent était encore dans toutes les mémoires. Quant à Démétrios, il brûlait de passer au plus vite en Asie mineure pour profiter encore de l'effet de surprise que son arrivée inopinée devait provoquer. Et de fait, sitôt la paix conclue, dès l'automne, début de l'hiver 287, il s'embarqua avec ses troupes, comme le rappelle Plutarque, pour une expédition dont il ne devait jamais revenir, sinon en un funèbre convoi quelques années plus tard. Callias, sa mission accomplie, repartait pour l'Égypte afin d'y soutenir encore les efforts diplomatiques qu'Athènes allait devoir intensifier avec le roi Ptolémée et la cour d'Alexandrie. Je conclue. Et alors, dira-t-on peut-être aussi, et Phaedros, que devint-il ? En fait, et c'est la meilleure preuve qu'il avait embrassé sans réserve la cause de la liberté, il eut la satisfaction de pouvoir, au dire du décret qui l'honore, transmettre à ses successeurs, tois met et auton, la cité comme étant libre, démocratique et autonome, ses lois étant en vigueur, tous nomous, tous te nomois, pardon, tous te nomous curius. Déclaration qui aurait été d'un cynisme consommé si Athènes, alors, avait toujours été au pouvoir de Démétrios, comme l'impliquait la chronologie décidément trop basse de Chia. Au surplus, on constate qu'il fut élu stratège des Hoplites, donc reconduit dans sa charge l'année suivante, sous l'archondat de Xénophon, 287-6, et le décret précise qu'il le fut protos upo tou demou. Or, cet adjectif protos, bien remarquable, ne peut signifier qu'une chose, nonobstant les opinions aberrantes auxquelles le premier éditeur du décret de Callias fut contraint de se ranger, c'est que les élections, les archairesiae de l'été 287, furent les premières, depuis longtemps, à être libres et démocratiques, puisque lors des précédentes, et encore en 288, on vivait sous le régime imposé par le roi de Macédoine, avec toutes les pratiques arbitraires que l'on a pu voir. 287 a été ainsi une très grande année pour Athènes, un véritable tournant. Mais la situation de la cité n'en était pas moins très précaire, puisqu'on a affaire à une ville, encore une fois, privée de la plus grande partie de son territoire, sans ressources, ni en argent, ni en céréales, n'ayant pas même accès à son port principal, à son emporion du Pirée, toujours aux mains de l'ancien occupant macédonien. Lui échappaient également ses forteresses, y compris la plus importante, le nœud routier d'Éleusis, à porte de la Mégaride et de la Béotie. Or, le sanctuaire des deux déesses à Éleusis, étant intégré dans cette enceinte, comme on verra encore tout à l'heure, au séminaire, les Athéniens se trouvaient même empêchés d'honorer, comme il convenait, certaines, et non des moindres en l'occurrence, de leurs divinités ancestrales. On comprend donc qu'ils n'aient pas ménagé leurs efforts dans les années suivantes pour refaire l'unité brisée de leur cité, d'en recoller les morceaux en un tout, eisto auto, comme disent certains décrets. On verra la semaine prochaine dans quelle mesure, et avec l'aide de Callias encore, de plusieurs autres citoyens et de certains étrangers, dont certains quelques souverains, ils sont parvenus au bout de leur peine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.